RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 9,5-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi la mise au point de la semaine. Et après, vous allez également écouter l'histoire d'aujourd'hui et la rubrique Mon Indonésie. La rubrique suivante, magazine culturel et l'Indonésie en couleur. Avant de terminer cette émission, vous allez écouter la rubrique courrier et musique. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutons maintenant le journal suivi la mise au point de la semaine.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir, chers amis, merci d'être fidèles à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. L'agence de cyber et le code de pays devraient protéger l'Indonésie contre la cybercriminalité. Les 300 descendants indonésiens aux Philippines possèdent officiellement leur passeport. L'Indonésie est prête à être le centre de la civilisation mondiale de l'éducation. Le Conseil de coordination des investissements au BKPM estime que le tourisme et e-commerce sont les secteurs stratégiques. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. L'Agence de cyber et de code de pays, ou BSSN, est une nouvelle institution qui est établie par le gouvernement indonésien pour fournir la sécurité et la protection contre la cybercriminalité. Cette agence prend immédiatement des mesures concrètes pour compléter les infrastructures, y compris l'ajout des ressources humaines afin de soutenir la mise en œuvre des tâches. C'est ce qu'a déclaré le chef de l'agence de cyber et code de paix au BSSN, M. Joko Setiadi, lors d'une réunion avec les médias au bureau de BSSN Jakarta récemment.
Tengok pendek, utamanya adalah untuk menjaga keamanan, untuk melindungi jabatan keamanan.
L'objectif à court terme, principalement, est de maintenir la sécurité et de protéger dans la cyber-région dans notre pays. Cette institution a besoin beaucoup de ressources humaines de cyber. Nous allons bientôt travailler et nous avons préparé des étapes. Le budget pour BSSN sera discuté le 16 janvier à travers la Commission 1 du Parlement. Joko Setiadi a également déclaré qu'en plus de sécuriser les agences gouvernementales et le secteur privé, BSSN devrait protéger le public contre la cybercriminalité sous n'importe quelle forme et même protéger les personnes contre le crime terroriste par une détection précoce. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, a remis symboliquement 300 passeports récemment aux descendants indonésiens à Davao, Philippines du Sud. Ces citoyens indonésiens sont la troisième génération et n'ont aucun de documents personnels depuis des centaines d'années. La présence de la ministre des Affaires étrangères de la République d'Indonésie, Mme Retno Marsudi, à Davao, les Philippines du Sud, récemment pour donner 300 passeports aux descendants d'Indonésie dans cette ville. Ils sont la troisième génération et depuis des centaines d'années n'ont pas de documents personnels. La ministre a dit que maintenant ils ont des passeports. Cela signifie qu'ils sont les Indonésiens qui vivent actuellement à l'étranger. Elle a fait appel aux citoyens d'origine indonésienne pour continuer à respecter la primauté des droits qui est la politique du gouvernement local. Avant de transférer des passeports aux descendants d'Indonésiens, le gouvernement indonésien, à travers le consulat général de la République d'Indonésie de la ville de Davao en collaboration avec le gouvernement philippine et le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, a enregistré 8745 descendants indonésiens sont dispersés dans 8 provinces des Philippines du Sud. De ce nombre, 2425 personnes ont reçu la lettre d'affirmation de la citoyenneté indonésienne. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le ministère des Religions a reçu la visite de la délégation de professeur Mahat Ali de l'Université globale de Beyrouth au Liban. Dirigée par le Cheikh Tariq Ghonam, la délégation a été reçue récemment par le directeur général de l'éducation islamique, M. Kamaruddin Amin. Kamaruddin Amin, cité sur le site officiel du ministère des Affaires religieuses Jakarta, mentionne samedi la visite des professeurs du Liban est l'une des mises en œuvre de la coopération académique entre le ministère des Affaires religieuses et l'Université globale de Beyrouth. La coopération a été convenue il y a plusieurs années et l'Indonésie est prête à devenir le centre de la civilisation et le but de l'éducation mondiale parce que l'Indonésie a un grand potentiel pour cela. Par exemple, le nombre de collèges qui est très élevé. Au cours de la visite, les professeurs partageront les connaissances liées aux méthodes d'enseignement de l'arabe avec les étudiants de Mahat Ali en Indonésie. Il y a des programmes qui ont été préparés pour faire de l'Indonésie une destination mondiale d'éducation. Le ministère des Affaires religieuses possède un programme de livraison de professeurs pour étudier à l'étranger. Le Conseil de coordination des investissements au BKPM estime deux secteurs économiques qui ont un potentiel stratégique à développer sont le tourisme et le commerce électronique. Le premier est le tourisme parce que les résultats sont rapides, l'impact sur l'emploi et le revenu des déficits est également rapide. C'est ce qu'a déclaré Thomas Lembong après une réunion limitée sur l'investissement et le commerce avec le président Joko Widodo au Palais Merdeka, Jakarta, récemment. Selon M. Thomas Lembong, le domaine du commerce électronique fournit également un grand chiffre d'investissement en 2017, plus de 5 milliards de dollars américains. En outre, le gouvernement invitera également les investisseurs dans le domaine du commerce électronique, à la fois de la Silicon Valley aux États-Unis, l'Europe, le Japon et la Chine. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
La mise au point de la semaine présente un sujet spécial dans la semaine.
Chers amis, merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Maintenant, nous allons vous présenter la mise au point de la semaine intitulée « La contribution de la manufacture de l'Indonésie est la plus élevée dans l'ASEAN ». Les industries de transformation dont pétrolière et gazière jouent un rôle important dans l'accélération de la croissance économique nationale. C'est parce que sa contribution peut donner des effets positifs, tels que l'augmentation de la valeur ajoutée des matières premières dans le pays, l'absorption de la main-d'œuvre locale et la recherche d'un déficit provenant des exportations. En outre, le secteur manufacturier national est devenu le plus grand contributeur de taxes et droits d'assises. Il a été déclaré par le ministre de l'Industrie, M. Erlangga Hartarto, à Jakarta jeudi. Se référant aux données de la Division de statistiques des Nations Unies en 2016, l'Indonésie se classe 4e rang mondial de 15 pays dont l'industrie manufacturière contribue de manière significative au produit intérieur brut. L'Indonésie est en mesure de contribuer jusqu'à 22% après la Corée du Sud, 29%, la Chine, 27% et l'Allemagne, 23%. Selon le ministre Erlangga Hartarto, la contribution moyenne de 15 pays étudiés était de 17%. La Grande-Bretagne est en dessous de la moyenne avec une contribution de 10%. tandis que le Japon et le Mexique sont sous l'Indonésie avec la contribution de 19%. La réalisation de 22% est très grande, de sorte que l'Indonésie est entrée dans les rangs de l'élite mondiale. Selon l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, l'Indonésie existe à la 9e place dans le monde, ou en hausse par rapport à l'année précédente, en 10e position pour la catégorie « la valeur ajoutée manufacturière ». Le 9e rang est parallèle au Brésil et au Royaume-Uni, même plus élevé que la Russie, l'Australie et les autres pays de l'ASEAN. Selon le ministre Erlanger, la contribution manufacturière de l'Indonésie peut pénétrer 30% si elle est calculée à partir de pré-production, production et post-production. La manufacturier est l'un des principaux secteurs à encourager l'accélération de développement et l'équité de l'économie nationale. Par conséquent, il est maintenant important de transformer l'économie en déplaçant les économies basées sur la consommation vers l'industrie manufacturière. Dans le but d'encourager une répartition équitable de l'industrie et de réaliser l'Indonésie centrée, le ministère de l'Industrie a facilité le développement de la zone industrielle, notamment en dehors de l'île de Java. Dans les deux prochaines années, il est prévu que la croissance de la nouvelle zone industrielle continuera d'augmenter avec le développement de 8 nouvelles zones industrielles en dehors de l'île de Java, avec un potentiel d'emploi de 296 000 personnes. Le ministre Erlanger estime également que l'Indonésie, dans sa proportion économique, peut être classée comme pays industriel. Il a rappelé que la clé du succès de l'industrialisation est soutenue par trois facteurs principaux, tels que ressources humaines, capital ou investissement et technologie. À cette fin, l'amélioration de la compétence des ressources humaines par l'enseignement et de la formation professionnelle est l'un des programmes prioritaires actuels du gouvernement après le développement des infrastructures. Chers amis, voilà la mise au point de la semaine de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Merci d'être fidèle à la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 7 janvier 1927, club de basketball de Chicago, Harlem Globetrotters, joue leur premier jeu. Ce club de basketball est une équipe de basketball qui combine le sport et la comédie pour créer l'un des divertissements sportifs le plus célèbre du monde. Formé par Ebb Saperstein à Chicago, Illinois, cette équipe utilise le nom Harlem en raison de sa connotation à la communauté afro-américaine. Le 7 janvier 1927, ce club a joué son premier match à Hinckley, Illinois. Depuis plusieurs années, cette équipe a visité à plus de 100 pays et participé à plus de 20 000 matchs exhibitions. Grâce à son action de divertissement, l'équipe de basketball qui combine sport, théâtre et comédie a été immortalisée dans le Basketball Hall of Fame en 2002. Le 7 janvier 1965, l'Indonésie a quitté les Nations Unies. Le 7 janvier 1965, l'Indonésie a quitté les Nations Unies pour protester contre l'élection de la Malaisie en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Il était officiellement sorti 13 heures plus tard par la lettre du ministre des Affaires étrangères de cette époque, le Dr Subandrio, le 20 janvier 1965, au secrétaire général des Nations Unies, OTAN. Ainsi, l'Indonésie sort aussi automatiquement de plusieurs agences sous les auspices des Nations Unies, telles que l'UNESCO, l'UNICEF et FAO. La sortie de l'Indonésie de l'ONU n'a pas duré longtemps. Le prochain président, Suharto a décidé que l'Indonésie, à nouveau devenir membre de l'ONU le 28 septembre 1966. Le 7 septembre 1989, Akihito devient l'empereur du Japon. Akihito est le 125e empereur japonais qui a régné depuis 1989, remplaçant son père, l'empereur Hirohito, qui est mort. Il est le premier fils et cinquième enfant de l'empereur Showa ou Hirohito et Maharani ou Kanjon Nakago. Ce prince est monté sur le trône après la mort de l'empereur Hirohito le 7 janvier 1989 et est devenu officiellement le 125e empereur du Japon le 12 novembre 1990. Depuis qu'il est monté sur le trône impérial, cet empereur a essayé de rapprocher la famille de l'empereur avec le peuple japonais. Il a effectué des visites officielles dans 18 pays, y compris dans 47 préfectures japonaises. C'était l'histoire d'aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
La Voix de l'Indonésie, vive la dignité!
Vous écoutez toujours la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique Mon Indonésie. Et le thème d'aujourd'hui est la préparation des Jeux Asiatiques 2018. Intitulé « Le village des athlètes des Jeux asiatiques équivalent à un hôtel 4 étoiles ». En août 2018, l'Indonésie a accueilli les 18e Jeux asiatiques à Jakarta et à Palembang. Tous les équipements de l'arène de match et hébergement des athlètes ont été créés et rénovés par le gouvernement. En 2018, certaines infrastructures ont été complétées, entre autres le village des athlètes de Palembang, qui devrait être achevé en mars 2018. Les Jeux asiatiques 2018 auront lieu du 18 août au 2 septembre 2018. Palembang tiendra 10 sur 40 des sports en compétition. Ces 10 des sports sont football, basketball, tennis, soft tennis, volleyball, canoë, kayak, aviron, tir, triathlon, le sepak takraw et escalade. En accueillant ce grand événement, Palembang améliore l'arène de match et aussi hébergement des athlètes, y compris dans la construction du village des athlètes. Le directeur adjoint de l'accommodation des athlètes de Jakabaring, Bambang Suprianto à Palembang, a dit que les préparations de l'hébergement pour les athlètes jusqu'à présent se passent bien. Il est divisé en trois zones de résidence qui sont construites avec le concept d'un hôtel de 4 étoiles. Cependant, lié au confort du complexe sportif de Jakabaring, le gouverneur de Sumatra du Sud, M. Alex Nurdin, a déclaré mardi à Palembang que le moyen de transport traditionnel, beca ou pedicab, a été interdit d'entrer dans la zone de complexe pendant les Jeux asiatiques. Selon lui, qui est autorisé à entrer seulement des véhicules spéciaux, ce sont des véhicules à gaz et sans pollution. Le véhicule transportera les participants sportifs aux zones de Jakabaring Pedicab. Il ne peut pas opérer qu'à l'intérieur du complexe de Jakabaring. Les visiteurs ou les autres participants sportifs doivent marcher jusqu'au stade ou bien à l'arène de match qui est participé par 45 pays. Chers amis, voilà la rubrique Modernisie pour aujourd'hui.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par internet sur le site www.voi.co.id.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir à tous, on se retrouve encore dans la rubrique Magazine culturel. Et aujourd'hui, nous allons vous inviter à voyager à Ambon, la province des Moluques, pour profiter de l'un des culinaires dans cette ville. Donc restez toujours avec nous à la Voix de l'Indonésie à Jakarta. L'Indonésie est un pays riche en épices, coutumes culturelles et culinaires. Chaque province de l'Indonésie a sa propre cuisine distinctive, y compris les Moluques. Il a une cuisine distinctive fabriquée à partir du café, c'est le café de Rarobang. Chaque région a sa propre spécialité, tant en termes de goût et de présentation du café. Une région qui probablement peu de gens connaissent a une présentation de café unique et délicieux, c'est les Moluques. Si le café est généralement composé des eaux et du sucre, dans certaines régions, le café est mélangé à d'autres ingrédients comme le café Rarobang de Ambon. En fait, pour faire du café de Rarobang est simple et facile. Les matériaux nécessaires sont les eaux, le sucre, les noix qui ont été rôties et hachées grossièrement, le gingembre, les clous de girofle, la poudre de café, la cannelle et les feuilles de pandanus. Et comment le faire? D'abord, mélanger les ingrédients tels que la poudre de café, le gingembre, la cannelle, les clous de girofle, le feuille de pandanus et le sucre dans les eaux et ensuite les faire bouillir jusqu'à ébullition. Retirer le ragoût et filtrer les eaux. Le café Rarobang est prêt à être servi à chaud. En complément, saupoudrer dessous les noix rôties. Bien qu'Ambon ne soit pas une région de production de café, le café de Rarobang est une boisson typique de Ambon. Il est bien connu par les amateurs de café du pays et de l'étranger. Les ingrédients de base sont le café arabica qui pousse beaucoup dans des régions de l'Indonésie. Cette boisson est le résultat de la modification de la population locale qui mélange les épices typiques de Ambon dans sa présentation. Les boissons au café sont déjà connues pour avoir l'avantage de calmer et leur propre plaisir que dans les autres boissons chaudes. Cependant, selon l'histoire, à travers le café Rarobang, les précurseurs ambonais veulent profiter de plus qu'un délicieux du café. Ils veulent que cette boisson offre également des avantages pour la santé de toute personne qui la boit. Ceci est dérivé des épices qui sont toujours le produit principal dans la région des Moluques. À Ambon, généralement l'après-midi, en se détendant après le travail et accompagné d'une tasse de café Rarobang, tout en écoutant de la musique ambonaise, ils se réunissent et détendent dans les cafés. Boire du café de Rarobang dans l'après-midi semble devenir une activité intéressante. Chers amis, voilà l'édition de magazine culturel pour aujourd'hui, intitulée « Le café de Rarobang à Ambon, les Moluques ». Si vous avez l'occasion de visiter la ville d'Ambon et voulez sentir la sensation de boire du café qui est différent du café en général, goûtez le café Rarobang. Bon, chers amis, merci à tous et au revoir.
Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Bonsoir, chers amis, on se retrouve encore dans la rubrique L'Indonésie en couleurs. Dans cette édition, je vais parler l'Indonésie va construire un millier de mosquées écologiques. En tant que pays avec une majorité musulmane dans le monde, l'Indonésie est fixée à passer au vert avec une nouvelle initiative qui vise à construire 1000 éco-mosquées en 2020. Cela a été annoncé par le vice-président Yusuf Kalla il y a quelques temps. Cette initiative transformera les mosquées en source d'énergie renouvelable, gérera les besoins durables en eau et en nourriture, réduira et recyclera les déchets et fournira des informations sur l'environnement. Le projet impliquera le Conseil des Ulémas indonésiens ou MUI en collaboration avec le secteur privé, le ministère de la Santé, la planification gouvernementale, les universités et d'autres groupes religieux. Ceci dans le but d'accroître la sensibilisation sur l'environnement par les gens partout en Indonésie. Monsieur Hayu Prabowo, le responsable de l'environnement et des ressources naturelles au sein du Conseil des Ulémas indonésiens, a déclaré que la plupart de la communauté musulmane en Indonésie écouterait ce qui est délivré par les ulémas. Avec une population de 250 millions d'habitants, l'Indonésie possède l'environnement varié. L'Indonésie est le plus grand exportateur de charbon thermique et producteur d'huile de palme, ce qui a conduit à l'ouverture et le développement de terres forestières et à une forte pression internationale pour limiter la déforestation. De nombreuses régions isolées en Indonésie touchées par la sécheresse due au changement climatique. M. Hayu Prabowo a dit qu'il a besoin de mesures concrètes pour aider les mosquées et communautés à faire face aux futures crises des eaux et de l'énergie en développant la résilience, entre autres à travers éco-mosquées. Selon Henning Parlan, coordinateur de l'environnement et la gestion des catastrophes, AISHA, l'organisation des femmes musulmanes, l'idée de la mosquée écologique vient de la question « Comment faire de la mosquée un centre environnemental et éducatif dans une communauté ?» Il y a encore beaucoup de personnes indonésiennes qui comprennent l'environnement quand elles sentent l'impact du changement climatique plutôt que par l'éducation. Comme par exemple, quand ils sont frappés par des inondations ou bien des glissements de terrain. Selon Parlan, cette initiative fera la mosquée dispose d'un approvisionnement et des installations de stockage des eaux qui sont plus propres, de donner des conseils de collecter des fonds pour les mosquées et pour les aider à respecter l'environnement. Concernant l'initiative des mosquées écologiques, elle n'est pas la première fois pour le Conseil des Ulémas indonésiens ou MUI de prendre l'attitude sur l'environnement. MOI a déjà émis une fatwa sur incendie des forêts et exploitation minière durable. Il y a plus de 800 000 mosquées en Indonésie, mais les autorités espèrent de créer plus éco-mosquées après la construction de 1000 premières mosquées et y compris d'autres lieux de culte. L'idée d'une éco-mosquée avec une échelle est rare. À Dubaï, une mosquée qui a été construite en 2014 est la première à répondre au nom du Conseil du bâtiment vert des États-Unis, tandis que la Grande-Bretagne, les États-Unis, le Maroc et la Malaisie ont des mosquées destinées à devenir plus vertes. Bon, chers amis, voilà la rubrique « L'Indonésie en couleur » de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Couleurs du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique Courrier et musique. L'équipe de l'émission française de la voix de l'Indonésie vous remercie d'avoir envoyé les courriers, les cartes postales, le rapport d'écoute et un message. Et nous allons saluer nos auditeurs et aussi présenter des chansons indonésiennes. Cette fois, nous allons vous présenter une chanteuse indonésienne qui s'appelle Giselle. Bon, chers amis, écoutons la première chanson intitulée Pencuri Hati ou Voleur du cœur, chantée par Giselle.
Kepadamu pencuri hati yang tak kusangka kau.
Merci à tous, à ceux qui nous ont écrit et envoyé les courriers, le rapport d'écoute et email. Et maintenant, je vais dire bonjour à Jean Barba en France, précisément à 168 Avenue du Stade 63110 Beaumont, la France. Nous avons déjà le courrier hier. Il est écrit le 13 octobre 2017. Merci pour le rapport d'écoute et j'espère que vous êtes toujours en bonne santé et toujours écouter nos programmes, notamment le programme La Voix de l'Indonésie en français. À notre âge, nous avons également reçu une lettre de Maurice Mercier, toujours en France, précisément à 637 rue François Guiraud, 69400 Villefranche. SS La France. Merci pour la carte de la nouvelle année. Il écrit mes voeux les plus chaleureux pour l'année 2017 à toute l'équipe du service français. Joie, santé, bonheur, paix et prospérité. Maurice Mercier. Merci pour la carte de la nouvelle année. Et hier, nous avons également reçu une lettre toujours de Maurice Mercier, la date de 2 janvier 2017. Merci pour le rapport d'écoute et j'espère que vous êtes toujours en bonne santé. Bon, chers amis, écoutons maintenant d'autres chansons de Gisèle intitulées Comment t'oublier. Bonne écoute.
Cara lupakan semua tentang
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Chers amis, vous êtes en train d'écouter la rubrique Courrier et musique de la voix de l'Indonésie. Et vous avez écouté une chanson chantée par Giselle, une chanteuse indonésienne. Giselle, dont le nom complet est Gisela Anastasia, elle a commencé sa carrière depuis qu'elle était devenue le deuxième lauréat du concours de chant 2008. Sur une télévision privée nationale. En 2011, elle a sorti le single intitulé « Tout se souffle » en collaboration avec le groupe de musique Last Child. Cette collaboration sont bien accueillies par les amateurs de musique indonésienne. En 2012, elle a sorti une autre single intitulé « Voleur du cœur ». La chanson créée par Reza Likumahua et Ezra Lilipori raconte de la beauté de tomber amoureux. Bon, chers amis, maintenant je vais dire bonjour à l'auditeur d'Algérie qui s'appelle Abdel Kader Khalil. Boîte postale 669 Al-Wahad Ouargla, 30000 Algérie. Et aussi l'auditeur de la France, précisément à Tours, Mademoiselle Leila Ouhmad. Et Merdine Mourad, boîte postale 154 Bicetif 19000 Algérie. Abdelilah Boubsir, à 05 rue Larets, Boussentouf, 22000 Sidi Bel Abbès, Algérie. Passons également bonjour à Farid Boumechal, rue de la Mosquée, numéro 6, parc à Fouras Batna, 05000 Algérie. Et Amidou Ngwambi, à P.O. Box 997 Tambora, Tanzanie. Bon, chers amis, écoutons maintenant les deux dernières chansons intitulées « L'amour secret et la vie pour toi ». Tous les deux sont chantés par Giselle. Merci à tous et à la semaine prochaine.
Ku telah mencintaimu di saat ku telah bersamanya. Sungguh tak bisa ku menghindari rasa ku padamu.
Ku mohon jangan tinggalkan. Let's keep.
harus menjadi cinta rahasia.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésia, Service International, La Voix d'Indonésie. Sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'internet sur www.voi.co.id.
Takkan ada yang bisa
menggantikan dirimu.
cintaimu selamanya tetap begitu apapun terjadi. Padamu hatiku berlabuh, oh cintaku sejati, oh. Ku mencinta dirimu
selamanya kan tetap begitu
apapun terjadi. Oh, 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 oh. Dirimu diriku menyatu, padamu hatiku berlabuh, oh cintaku sejati.
La voix de l'Indonésie. Soyez la première, soyez différente, soyez la meilleure.
setia cintaku walau berteman rindu. Oh,
setelah rubrik Korea Musik dalam Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Ainsi se termine la mission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Au revoir.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la Voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9525 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, la Voix de l'Indonésie, RRI au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voiindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.